les paractualités.
Bonjour, ici Hélène Denis. Bienvenue à l'émission Les Paractualités du lundi 12 février 2018. En manchette aujourd'hui, santé du cœur, les femmes négligées au Canada. Trois humoristes sur scène pour les enfants de l'école Jean Piaget. Une nuit pour faire la différence. Font Jean-Luc Mongrain des recherches pour soigner. Et 15 bougies pour le Centre des arts Nina Hegarty. Je recevrai en entrevue Alain Ouédraogo, directeur de l'Arche Montréal, qui vient nous parler de l'organisme qui a célébré ses 40 ans en 2017 et aussi de l'atelier Alizée. Et je recevrai aussi Marie-Josée Déhit, directrice générale de l'organisme PIMO pour promotion intervention en milieu ouvert, qui viendra nous parler, elle, de la campagne de sensibilisation de PIMO. Nouvelle tirée du journal Métro.com, un bulletin publié récemment affirme qu'au Canada, les femmes sont trop nombreuses à souffrir ou à mourir de maladies du cœur à cause d'un système mal équipé pour diagnostiquer, traiter et soutenir leur santé cardiaque. Dans le bulletin du cœur 2018 émis par la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, le chef national de la direction, Yves Savoie, déplore qu'on commence tout juste au pays à comprendre le fonctionnement du cœur des femmes et de voir le temps qu'il faut pour que les connaissances leur parviennent. La situation est illustrée par quelques données. En outre, les deux tiers des études cliniques sur les maladies du cœur se concentrent sur les hommes. Pourtant, les femmes sont 5 fois plus à risque de mourir d'une maladie du cœur que du cancer du sein. De plus, les femmes qui font une crise cardiaque sont plus susceptibles que les hommes d'en mourir ou de subir un deuxième événement cardiaque dans les 6 mois suivants. La docteure Karine Humphreys, directrice scientifique d'un centre sur la santé cardiaque de la Colombie-Britannique, signale dans le bulletin de la Fondation que les types de maladies du cœur peuvent grandement différer chez les hommes et les femmes et donc nécessiter une démarche particulière de diagnostic et de traitement. Yves Savoie lance un appel pour que les dispensateurs de soins aient les outils pour étudier et traiter les maladies du cœur différemment chez les femmes. Il réclame aussi que les femmes aient un accès à la réadaptation cardiaque autant que les hommes. Nouvelle tirée du courrier Laval.com. Trois humoristes sur scène pour les enfants de l'école Jean Piaget. Il s'agira de la 4e édition de ce que la Fondation des enfants de l'école Jean Piaget appelle son activité qui fait la différence. Cette soirée d'humour, représentant la source la plus importante de financement, outre les sommes reçues de la Commission scolaire de Laval et des divers donateurs. En tant qu'ancien ergothérapeute et ayant été invité sur le gala à sa 2e année, j'ai accepté de visiter l'école à l'époque, de raconter l'humoriste Guillaume Pinault, porte-parole de la Fondation. Il était impossible de rester insensible à la mobilisation du personnel professionnel et professoral, ainsi que toute l'équipe de thérapeutes, dont d'anciens collègues. Cathy Gauthier tiendra le haut de l'affiche de cette soirée prometteuse en rire et en émotions de toutes sortes. On parle d'une femme forte qui vient de sortir son 4e spectacle solo en carrière, souligne Guillaume Pinault. Elle a imposé son propre style et tracé le chemin pour bien des filles en humour. Peut-être va-t-elle nous parler de sa grossesse, elle qui attend un premier enfant. Mathieu Pepper, un ami de longue date du porte-parole, animera le gala. Quant à Marco Métivier, le jeune artiste de Drummondville s'inscrit dans la tradition des raconteurs d'histoire. C'est un bon observateur du quotidien qui parle aux 7 à 77 ans. Rappelons que la Fondation est un organisme à but non lucratif dont la mission est de défendre et promouvoir les intérêts de ses enfants. La Fondation des enfants de l'école Jean Piaget présentera son 4e gala Humour le samedi 17 février à 19h à la Maison des arts de Laval, située au 1395 boulevard de la Concorde-Ouest. We'll be right back. De la belle visite en studio, l'Arche Montréal a célébré en septembre 2017 son 40e anniversaire d'existence et j'ai le plaisir de recevoir son directeur général, Alain Ouédraogo. C'est bien cela, monsieur Ouédraogo?
Oui, c'est très bien. Oui.
Alors, pour ceux et celles qui n'auraient jamais entendu parler de l'Arche Montréal, pouvez-vous nous définir en quelques mots, c'est quoi cet organisme-là?
Et merci de nous accueillir déjà. C'est vraiment une belle opportunité que vous nous offrez. Effectivement, l'Arche Montréal a célébré ses 40 ans et l'automne dernier. Et ce qu'il faut retenir de l'Arche, c'est que l'Arche Montréal est membre d'une fédération internationale des communautés de l'Arche qui a été fondée par M. Jean Vanier. Mm-hmm. Jean Vanier, qui est le fils de l'un des anciens gouverneurs du Canada, M. Georges Vanier. Et la mission de l'Arche, c'est davantage de donner un milieu de vie, de créer un milieu de vie de type familial pour des personnes qui ont un handicap intellectuel et aussi à travers des activités d'art et puis différentes sortes d'activités justement pour permettre à ces personnes-là de trouver leur place dans la société.
Et à l'Arche Montréal, il y a ce que vous appelez les personnes accueillantes et les assistants. Oui. Pourquoi vous avez développé ce vocabulaire-là, ces appellations-là?
Oui, on a cru bon de développer cette appellation parce que, comme je vous le disais tantôt, on est un milieu de vie de type familial. Mm-hmm. Alors, les personnes accueillantes, c'est nos résidents, en fait, qui accueillent toutes les personnes qui viennent vivre une expérience à l'Arche. Et les assistants, c'est des jeunes qui viennent de différents horizons, justement, vivre cette expérience et du quotidien avec des personnes qui ont une différence.
Et durant le jour, la plupart des personnes qui sont accueillies à l'Arche vont travailler soit à l'atelier Lalizé. Mmh. Parlez-nous de l'atelier Lalizé.
Et l'atelier Lalizé, c'est un atelier d'art et ouais. C'est également aussi un centre de jour qui accueille autant des personnes de l'Arche que des personnes qui habitent dans d'autres ressources. Et l'histoire de l'atelier, est vraiment en rapport avec ce que l'Arche essaie de créer dans le monde. Et le projet est né simplement du fait qu'une personne accueillie à l'Arche et ne trouvait pas sa place dans les autres ateliers ou centres de jour qui sont offerts par le centre de réadaptation. Et donc, le responsable de l'époque a jugé bon de commencer à créer un petit noyau autour de cette personne-là pour lui permettre aussi de pouvoir bénéficier d'activités. Alors, ils ont commencé dans le sous-sol de l'une de nos premières résidences, l'Esquif. Et dans les années 78, donc cette année, l'atelier va célébrer ses 30 ans. Mm-hmm. Et ce qui est vraiment particulier, c'est de voir comment ce petit noyau de personnes a évolué avec le temps. Ah, et ouais. En ce moment, c'est un lieu vraiment d'épanouissement pour les personnes qui ont un handicap intellectuel, qui accueille environ 18 personnes régulièrement pour des activités. Et c'est un lieu aussi où on fait beaucoup d'art. Et l'art que les personnes produisent à l'atelier est vraiment un art de toute beauté.
J'ai vu, entre autres, des œuvres d'art, des cartes de Noël. Est-ce qu'on peut visiter oui. Vous faites des vernissages à l'occasion?
Oui, bien sûr. On fait un vernissage chaque année. On peut visiter notre site Internet, www.largemontréal.org. Et on peut aussi se présenter dans nos locaux, justement, situés sur la rue Jogues à Villemar, pour découvrir les espaces de l'atelier.
Et comment on peut devenir participant à l'Arche de Montréal? Vous accueillez 25 personnes présentant une déficience intellectuelle dans 5 foyers.
Oui,
qui ont tous des noms. Oui. L'Esquif, mm-hmm. La Colombe, l'Arc-en-Ciel, la Passerelle et le Rameau.
Vous connaissez bien.
Oui, on s'est informé avant de vous inviter.
Oui, tout à fait, je vois ça. Oui, c'est vrai que l'Arche Montréal accueille en ce moment en permanence 25 personnes. Et la particularité de l'Arche, c'est qu'on accueille les personnes à vie. Oui. Et c'est vraiment comme n'importe quel lieu de vie de type familial. Et l'Arche Montréal existe depuis 40 ans. On a des personnes qui habitent là depuis 40 ans. Mm-hmm. Et ces personnes-là sont chez elles. Et ce qui est beau et malheureux en même temps aussi, c'est qu'on ne peut pas accueillir trop de monde. On accueille seulement 25 personnes en permanence. Ce qui fait qu'on a une liste d'attente d'à peu près une trentaine de personnes.
Vous les choisissez comment, ces personnes qui veulent vivre chez vous?
Alors, pour choisir ces personnes, c'est une démarche qui s'est faite avec ces personnes et avec les familles. Pour nous, c'est important que la personne, nous sommes conscients que même si une personne a un handicap intellectuel, elle est capable de s'exprimer, elle est capable de faire des choix. Alors, donc, dans ce processus, on le fait conjointement avec les familles et puis les personnes qui devraient être accueillies à l'Arche. Et ces personnes viennent pour une visite, elles viennent à nos événements. Et par exemple, nos cafés rencontres qui ont lieu le dernier lundi du mois, c'est une belle occasion pour les gens qui veulent découvrir l'Arche de venir passer du temps avec nous. Et progressivement, la personne commence justement à découvrir la communauté et puis la communauté aussi apprend aussi à découvrir cette personne. Et quand on voit qu'il y a une possibilité que cette personne puisse habiter à l'Arche, parce que c'est un lieu de vie communautaire. C'est, donc, on ne veut pas exclure les gens, mais il faut aussi que ce soit des personnes qui sont capables de, d'interagir avec d'autres personnes dans un espace de type familial.
Et quels sont les projets de l'Arche pour cette année?
Alors, cette année, comme je vous l'ai mentionné tantôt, et on va célébrer certainement, on va vraiment souligner les 30 ans de notre atelier d'art, l'atelier de l'Alysée. Et là, on est en train de voir justement différents types de partenariats qu'on pourrait développer pour pouvoir justement créer un événement qui va permettre vraiment de faire découvrir l'atelier de l'Alysée par le maximum de personnes. Aussi, en ce moment, dans le cadre de nos 40 ans, on a une campagne de financement qu'on est en train de mener sur 3 ans. Et on a une communauté vieillissante. La moyenne d'âge, c'est autour de 60 ans. Mm-hmm. Alors, donc, nos bâtiments aussi vieillissent, qui ont besoin d'entretien. Donc, en ce moment, on mène cette campagne-là, dont l'objectif est d'aller chercher 400 000 sur 3 ans. Alors, on espère que les gens y vont répondre avec beaucoup de générosité pour nous permettre de continuer à vivre cette belle mission.
Et si on veut donner à l'Arche de Montréal, qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, c'est simplement sur notre site Internet, le www.larchemontréal.org. Alors, on va sur l'onglet « Données » et puis il y a plusieurs instructions qu'on peut suivre.
Est-ce que vous êtes directeur général de l'Arche Montréal depuis longtemps, M. Ouédraogo?
Depuis 6 ans et je suis avec l'Arche depuis 12 ans.
Est-ce que vous comptez continuer encore longtemps?
Un jour à la fois. Un jour à la fois, ouais. Mais c'est une belle mission. J'avoue que je suis très, très, très nourri par cette expérience très, très humaine de rencontrer chaque jour des personnes qui ont un handicap intellectuel, de voir cette générosité, l'accueil et puis les preuves d'humanité dont nous sommes témoins chaque jour, ça me donne beaucoup de vie.
Merci beaucoup de votre visite, Alain Ouédraogo, directeur de l'Arche Montréal.
Merci à
et
vous.
Et à une prochaine, puis en tout cas, continuez votre beau travail. 40 ans pour l'Arche Montréal déjà, 41 ans, un an cette année, 30 ans pour l'Alysée.
Oui.
Lâchez pas.
Merci, merci, merci pour votre beau travail et bonne continuation.
Merci. Bloc régional maintenant dans le nouveliste.ca. Une nuit pour faire la différence. Le 16 juin prochain aura lieu la 15e édition du Relais pour la vie à Trois-Rivières. La survivante d'honneur, Justine Desrochers-Goyette, en rémission d'un lymphome diffus à grande cellule B, sera présente lors de la marche de nuit qui se déroulera à l'école secondaire Chavigny. J'ai tout de suite accepté de faire partie de la marche en tant que survivante d'honneur. C'est une cause très importante pour moi car dans la dernière année, j'ai connu ce qu'était le cancer. Après 6 mois d'investigation, j'ai reçu mon diagnostic. Sur le coup, j'ai eu un choc immense. Lorsque tu t'entraînes plus de 6 fois par semaine et que tu es étudiante, c'est vraiment une annonce très difficile qui bouleverse ta vie. On se croit à l'abri du cancer, mais le cancer peut toucher tout le monde, explique Mme Desrochers-Goyette. Le comité organisateur du Relais pour la vie de Trois-Rivières souhaite amasser 147 000 $ et mobiliser 45 équipes sur le terrain. Ils veulent également vendre 1 800 luminaires pour la cérémonie des luminaires qui aura lieu durant la soirée. C'est une marche de 12 heures pour représenter les 12 mois de l'année. Cette marche a lieu la nuit car le cancer ne dort jamais. Nous en sommes à notre 15e édition et nous avons choisi d'optimiser l'événement. On veut que ce soit une grande fête. Au total, c'est 88 relais pour la vie qui auront lieu partout en province du 19 mai au 16 juin. Pour plus d'informations sur l'événement ou pour faire un don, il est possible de consulter la page Internet au www.relaispourlavie.ca. Dans la tribune.ca, le fonds Jean-Luc Mongrain remet 50 000 $ à 4 projets du Centre de recherche du CHUS pour un total de 200 000 $. Les troubles anxieux, la régénération des tissus, le cancer du sein et le diabète sont au cœur des projets sélectionnés. Les sommes versées par le fonds Jean-Luc Mongrain servent de levier et permettent de générer des données préliminaires, donnant ensuite accès à des sommes importantes offertes dans différentes compétitions internationales, souligne Dr. William Fraser, directeur scientifique. Les chercheurs s'inspirent de la capacité de la salamandre à régénérer ses tissus, voire même de régénérer un de ses membres pour éventuellement proposer de nouveaux traitements aux personnes ayant subi des blessures à la moelle épinière ou souffrant de dystrophie musculaire. Le problème qu'on a chez l'humain, c'est qu'on sait mal régénérer les tissus. Quand on a une lésion de la moelle épinière, on ne peut pas régénérer le système nerveux car les fibres nerveuses ne repoussent pas. Chez la salamandre, les fibres nerveuses vont repousser et se reconnecter. Cela leur permet, par exemple, de remarcher sans entraînement 8 semaines après s'être coupé une jambe. Notre recherche vise à comprendre comment la salamandre est incapable d'y arriver, note M. Rick Sko, ajoutant que ce projet de recherche vise à améliorer la qualité de vie des quelques 80 000 Canadiens qui souffrent de lésions de la moelle épinière. Rappelons que Jean-Luc Mongrain est associé à la Fondation du CHUS depuis 2003. L'organisme PIMO pour promotion intervention en milieu ouvert organise une campagne de sensibilisation et une pétition et on en parle avec la directrice générale de l'organisme PIMO, Marie-Josée Dehitte. Bonjour, Madame Dehitte.
Bonjour, Madame.
D'abord, résumez-nous en quelques mots la mission de PIMO.
Oui, alors PIMO est un organisme qui a été fondé en 1986 par des personnes handicapées physiques, motrices, des adultes. Qui réside à Montréal, qui réside toujours à Montréal, pour offrir un service d'accompagnement, donc un service rémunéré. C'est important de le dire, ce sont des accompagnateurs salariés qui dispensent de l'aide physique pour tout type de sortie.
Et qui sont les personnes qui travaillent pour PIMO?
C'est sûr que le métier d'accompagnateur n'est pas encore reconnu officiellement. Nous, en deuxième mission, si on veut, on fait de la promotion là, pour faire reconnaître le service puis le métier d'accompagnateur. Donc, les gens qui viennent à PIMO ont souvent la formation de préposé de maintien à domicile où ils ont tellement de bénévolat que finalement, on les accepte parce que le savoir-être est très, très important dans l'approche puis dans dans le travail à faire. Donc, on dispense la formation de préposé de maintien à domicile. On donne ce qu'on appelle le PDSB. C'est le cours de... On donne un segment de la formation des principes sécuritaires des déplacements.
Oui. Et là, vous êtes en pleine campagne de sensibilisation. Est-ce que ça a commencé? Quel est l'objet de cette campagne?
Donc, l'objet de la campagne, c'est de sensibiliser la population et les élus aux besoins d'accompagnement, au manque de services aussi, puis à la nécessité de mettre en place des services d'accompagnement partout au Québec, comme le prône la politique à part entière qui a été adoptée en 2009 par l'Assemblée nationale. Donc, dans cette politique, on reconnaît la nécessité de mettre ces services en place. Donc, nous, on a pris de l'avant à la table d'accompagnement de Montréal qu'on coordonne. On a testé un modèle d'offre de services régional dans laquelle on regroupe 6 types de handicaps. On l'a testé sur un territoire de C3S, le C3S Jeanne-Mance. On a testé ça en 2013-2015. Ça a très bien fonctionné. Les résultats ont été concluants.
Quels sont les 6 handicaps?
C'est la déficience, la déficience physique motrice qu'on dessert toujours, mm-hmm. la déficience sensorielle ou qui regroupe bon, les personnes aveugles entre autres, la déficience au tout au niveau du comportement, les troubles de comportement, les troubles de langage parole. Ce que j'ai nommé la déficience intellectuelle et la déficience, la multidéficience, ceux qui en cumulent une, deux ou trois.
D'accord. Alors, vous voulez élargir le service partout en région, à travers le Québec?
À travers le Québec, nous, on pense que le modèle qu'on a testé, si on veut, dans un microcosme, et puis que là, qu'on est en train de déployer en ce moment, là on est en préparation de tester le modèle sur toute l'île de Montréal. Ça va être prêt dès la mi-mai. On va commencer le service partout sur l'île de Montréal, parce que les extrémités de l'est, est-ouest, sont un peu plus difficiles à faire à cause que le transport en commun et les gens sont moins bien desservis par le transport en commun. Donc, nous, on pense que notre modèle peut servir d'exemple à d'autres régions qui peuvent l'adapter en fonction de leurs priorités, puis de leurs difficultés aussi régionales.
Mm-hmm. Alors, le but de cette campagne, c'est de faire connaître votre organisme, mais c'est surtout aussi d'amasser des fonds.
C'est amasser des dons.
D'accord.
Pas des,
oui,
des noms.
Oui.
pour une pétition, c'est sûr qu'on est toujours on est toujours ouvert à recevoir des dons, mais là, c'est surtout des noms.
Alors, où on peut signer la pétition?
C'est ça, la pétition, elle est accessible sur notre site Internet à www.pimo.qc.ca ou sur notre compte Facebook à Pimo Montréal. Sauf que là, la pétition est papier jusqu'à la fin du mois. À partir du 1er mars prochain, elle va vraiment être en ligne pendant 3 mois, mm-hmm. jusqu'à la fin mai, puis elle va être déposée à l'Assemblée nationale le 1er juin.
Et celle qui est en papier, on peut la signer en allant chez vous?
Oui, en allant chez nous, vous pouvez nous appeler, on peut vous en envoyer, vous pouvez faire un petit blitz de signatures. Il y a 22 signatures qui sont possibles sur la pétition. Ou sinon, ben vous pouvez l'imprimer directement sur notre site sur notre site Internet.
Est-ce que vous avez commencé à avoir des signatures?
Oui, on a plus de 2000 signatures.
Est-ce que vous avez un objectif?
On aimerait ça ramasser 10 000,
ouais.
Mais c'est sûr qu'au niveau des médias sociaux, là, on pense que ça va être beaucoup, c'est beaucoup plus facile aussi de ramasser des noms là avec les médias sociaux là, parce que ça va partout aussi. C'est plus facile de rejoindre les gens maintenant sur les médias sociaux.
Mm-hmm. Alors vous prenez des dons, mais vous ramassez plutôt les noms.
Oui. On prend les deux.
Oui.
Mais pour l'instant, là, c'est sûr que les noms, c'est vraiment important pour nous d'essayer d'avoir le plus de signatures possible.
Oui. Alors, redites-nous les coordonnées de PIMO si on veut signer la pétition. Mais pour l'instant, vous nous dites que c'est seulement sur papier qu'on peut le faire, mais
oui.
Ça va être plutôt en mars qu'on va pouvoir y aller numériquement. Là.
Oui, numériquement, par notre compte Facebook qui est PIMO Montréal.
Mm-hmm.
PIMO-Montréal, pardon, et puis notre site Internet qui est www.pimo.qc.ca.
Marie-Josée Deshit de l'organisme PIMO, un grand merci d'avoir été avec nous, puis bonne chance avec votre campagne et les signatures que vous espérez. Jusqu'à maintenant, il y en a 2000 et
oui,
on vous en souhaite 10 000 et plus.
Oui.
Au revoir.
Merci beaucoup, madame. Au revoir.
Bougie pour le Centre des arts Nina Haggerty. Le Centre des arts Nina Haggerty soutient les artistes en arts visuels ayant un handicap depuis 2003 à Edmonton, dans le quartier de l'Alberta Avenue. L'établissement tient son nom d'une artiste née au début du siècle dernier et qui était atteinte de polio. Nina Haggerty s'est illustrée en tant qu'artiste visuelle à la fin de sa vie après avoir vécu pendant plus de 50 ans au centre Michener de Red Deer, une institution pour personnes atteintes de déficience intellectuelle. Grâce à l'appui de la Skills Society, elle a pu quitter le centre et mener une vie autonome en société, vivant avec sa sœur aînée, également atteinte de cette maladie. Wendy Olo a bien connu Nina à l'époque où elle était directrice générale de la Skills Society, un organisme qui vient en aide aux personnes ayant un handicap. Nous avons pu les aider à vivre ensemble comme quand elles étaient enfants. Elles ont pu profiter des années qui leur restaient jusqu'à la fin de leur vie. Le mandat du Centre des arts Nina Haggerty s'est élargi pour y inclure les personnes marginalisées de la société, dont les démunis, les nouveaux arrivants, et depuis 2015, les détenus des centres carcéraux de la région d'Edmonton. Des Winnipegois handicapés s'épanouissent à un cours de danse et sur le site d'ici Radio-Canada, bouger au rythme de la musique et explorer son espace en mouvement améliore la condition de certains Winnipegois aux prises avec des problèmes de déficience physique et intellectuelle, révèlent des chercheurs de l'Université du Manitoba. Ils ont mené un projet pilote auprès de participants au programme Explorability du Ballet Royal de Winnipeg. Carrie Peters, étudiante à la maîtrise à l'Université du Manitoba, explique que les quelques danseurs d'Explorability présentent des progrès en quelques mois seulement. Merci à mes invités, Alain Houé-Draogo, directeur de l'Arche Montréal, Marie-Josée Deshit, directrice générale de PIMO. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche, Jean-Sébastien La Liberté à la technique, ici Hélène Denis qui vous remercie, vous, d'avoir été présent. Et je vous retrouve, j'espère, demain. Bonne journée.